Quatre concerts en fin de semaine donnés à Chalon-sur-Saône, à Montbéliard, à Isle-sur-Tille ou encore à Besançon par un orchestre un peu particulier annoncé comme Fantastique Orchestre des Jeunes. On est quelque part en Haute-Saône au téléphone avec Jean-François Verdier qui dirige habituellement l'orchestre Victor Hugo Franche-Comté. Jean-François Verdier, un énorme orchestre symphonique.
Et comme vous l'avez dit, il est fantastique parce que c'est un orchestre éphémère, c'est un orchestre de jeunes musiciens entre 11 et 21 ans qui n'existe que pendant 10 jours chaque année en fin d'été avant de reprendre les chemins de l'école. Et c'est un orchestre qui cette année a choisi un programme qui est fantastique. Donc c'est pour ça que ce titre-là nous est apparu essentiel. C'est aussi un projet tout à fait particulier puisqu'il y a très peu de régions en France où on créer des orchestres comme ça où les jeunes musiciens de toute la région et puis d'ailleurs peuvent participer sans qu'on s'occupe de leur provenance. Et c'est à la fois une très grosse période de travail pour eux parce qu'on les fait travailler entre 7 et 8 heures par jour, ce qui pour jouer d'un instrument est quand même beaucoup. Et en même temps, c'est une grande période de fête parce que ils passent tout le reste de la journée à jouer au foot, au badminton, à tous les jeux qu'ils inventent avec les animateurs, à jouer à la pétanque et à avoir des super vacances musicales.
Donc, puisque vous avez parlé de la symphonie fantastique de Berlioz, c'est à la fois le bal et la marche au supplice.
Alors oui, alors tout le programme est fantastique, c'est-à-dire qu'il y a un lien avec le fantastique dans tout le programme. Donc la symphonie, évidemment, fantastique s'imposait, mais il y a aussi des musiques de Harry Potter, de Star Wars, des passages les plus marquants de la symphonie Titan de Mahler, ou encore La nuit sur le mont Chauve de Moussorgsky. C'est plein de choses qui font appel au merveilleux, à l'imagination, qui leur parlent énormément, parce qu'évidemment, ils ont vu des quantités de films sur le fantastique, sur l'imaginaire, et c'est un moyen de leur faire toucher en plus des œuvres qu'ils n'ont jamais l'occasion de jouer, parce que la symphonie fantastique ou la symphonie de Mahler, ce sont des choses qui se jouent quand on est très nombreux avec des paramètres qu'ils ne peuvent jamais réunir dans leur conservatoire ou dans leurs écoles ou pour ceux qui ont la chance d'en faire partie. Donc c'est une expérience unique à la fois musicale mais aussi sur le plan de l'imaginaire puisque la musique ça véhicule de l'imaginaire, ça véhicule du rêve et c'est pour ça que on a choisi ce programme-là de manière à ce qu'ils puissent rentrer facilement à travers les images, à travers les histoires qu'ils connaissent déjà dans la musique qu'on leur propose.
Est-ce que les musiques de John Williams ne leur parle pas plus tout de même que les musiques de Moussorgsky ou de Ravel?
Ah, immédiatement, sur le premier jour, oui, parce que évidemment ils les ont dans l'oreille. Et puis en plus, ce sont des musiques qui sont assez formatées pour parler directement à tous les gens qui ont vu les films américains depuis 10 ans. Donc elles sont toutes à peu près faites sur le même modèle. Ils sont habitués à ce langage. Après, il se trouve que les musiques de John Williams ont une source et que les sources sont les compositeurs d'avant. Et que s'il n'y avait pas eu les compositeurs d'avant, John Williams n'aurait jamais écrit ce qu'il a fait. Et finalement, au bout du 2-3e jour, ils se rendent compte des filiations, ils se rendent compte des ressemblances, ils se rendent compte que finalement il y a des choses aussi fortes, aussi marquantes dans les pièces d'avant et qu'en plus elles étaient plus nouvelles à l'époque, elles étaient plus originales et qu'il y a souvent chez Mahler notamment ou chez Berlioz un sens profond de l'art et de la musique qui n'existe peut-être pas quand même chez John Williams.
Jean-François Verdier, à côté de vous, il y a d'autres professionnels musiciens qui viennent aussi bien de l'orchestre que vous connaissez bien à Besançon, Victor Hugo Franche-Comté, que de l'orchestre Dijon-Bourgogne. Comment se passent les échanges, justement, entre ces jeunes musiciens et ces professionnels-là qui sont habitués à l'orchestre, à ces disciplines, à ces manières de faire?
Les musiciens de nos orchestres respectifs de Besançon et de Dijon sont souvent aussi enseignants, notamment dans les conservatoires des villes-cités, puis aussi à Chalon, et puis aussi à Montbéliard. Ce sont donc des gens qui sont habitués à travailler avec de jeunes musiciens. Il y en a plusieurs qui sont ici, qui sont aussi leurs élèves. Donc le lien est très facile. Après, dans l'organisation, les coachs, parce que sinon on peut les appeler comme ça, donc les musiciens professionnels qui viennent avec nous, ont en charge les jeunes musiciens pendant 2 jours et demi au début pour remettre tout le monde un peu à niveau après les vacances, pour voir si les instruments marchent bien, pour voir s'ils ont chacun bien préparé leur partition, pour les aider, pour les mettre en état de jouer ensemble, parce que c'est pas facile. Comme on crée une équipe de foot, c'est à 11, on dit que c'est pas facile de jouer en équipe, mais nous on est 93, et 93 personnes qui jouent pour la plupart souvent peu un orchestre, et certains c'est la première fois, ça se fait pas d'un coup. Donc il faut les préparer à ça, c'est à ça que servent ces coachs-là, et ensuite au bout du troisième jour, on les met tous ensemble, on travaille tout le temps ensemble avec les deux chefs qui sont là chaque année. Donc c'est, en général c'est moi, mais c'est pas chaque année. Cette année c'est une jeune femme américaine qui s'appelle Elisabeth Askren qui travaille avec moi, et donc on se partage le travail le matin, l'après-midi, le soir pour monter tous ces programmes-là, sachant qu'on a peu de temps pour le faire, donc c'est un challenge, parce qu'on a en général une semaine, et après, effectivement, on fait 5 concerts. On en a un ici pour nous à charger les grès, c'est-à-dire là où on travaille, qui nous sert de répétition générale, et ensuite, on en a 4 en 3 jours, donc c'est aussi un challenge pour les musiciens, parce qu'il faut faire les trajets, il faut se présenter au public dans le meilleur état, il faut récupérer vite, il faut pas se fatiguer, il faut très bien jouer. C'est une expérience incroyable pour ces jeunes-là, parce que c'est la dernière semaine avant de repartir dans leur vie, entre guillemets, normale, mal de l'école, et après le dernier concert qui a lieu cette année à Besançon, en général la moitié de l'orchestre pleure, l'autre moitié de l'orchestre chante parce que c'est la fin du stage et puis parce qu'ils se voient pas pendant longtemps, et la chanson de l'année dernière c'est « Il nous reste plus que 51 semaines à attendre », ce qui est quand même assez fabuleux.
Ouais, ça veut dire que certains reviennent d'année en année ?
Absolument, il y en a qui sont là depuis le début, qu'on a vu être tout petits, arrivés à 12 ans, et qui en ont maintenant 20, qui c'est des grands gaillards ou des grandes filles. Et on en a des petits nouveaux qui sont arrivés cette année. Il y en a une dizaine qui ont 11 ans, 12 ans. Et ça, c'est formidable, parce qu'à cet âge-là, arriver à jouer dans un orchestre comme ça, entouré de gens plus âgés, plus costauds, évidemment, qui les aident, mais être immergé là-dedans, c'est une expérience que peu d'enfants ont la possibilité de vivre, et c'est quelque chose qui vous marque, je pense, à vie.
Et qu'est-ce qu'au bout du compte, ça apporte à Jean-François Verdier, qui est habitué à jouer avec l'orchestre Victor Hugo comme chef, ou comme instrumentiste, ou comme chef encore, avec d'autres grands orchestres?
Alors, moi j'ai commencé la musique très tard. J'ai commencé à 16 ans, ce qui est très tard pour des raisons géographiques et familiales, voilà. Et j'aurais rêvé de pouvoir jouer dans un orchestre comme ça, évidemment dès que j'ai commencé, mais bien avant. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui me faisait rêver, auquel j'avais pas accès. Ça aurait pu rester une histoire personnelle, familiale, qui n'intéresse personne, mais au fur et à mesure du temps passé justement à faire des voyages, à rencontrer des gens en France ou ailleurs, mais à rencontrer des musiciens professionnels, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait souvent un monde à part entre les musiciens professionnels et les autres, qui étaient des musiciens désireux de savoir ce que c'était, mais qui n'avaient pas accès à ça. Et en même temps, je pense que c'est bien aussi que les professionnels se rappellent pourquoi ils ont fait de la musique en vrai, c'est-à-dire pour cet émerveillement qu'ils ont senti quand ils avaient 8 ans, 9 ans, 10 ans, et qu'il s'agit de garder, parce qu'il s'agit de le transmettre. Et il s'agit de le transmettre au public et aux jeunes qui viennent derrière. Et donc, je pense que ce genre de stage qui mêle les deux remplit les deux objectifs, c'est-à-dire ça permet de créer un lien entre les deux mondes, ça permet aux anciens, entre guillemets, de se ressourcer, et aux jeunes de profiter de l'expérience et des moyens qu'ont les autres. Je pense que c'est aussi socialement important que musicalement porteur.
le fantastique orchestre des jeunes de Bourgogne-Franche-Comté, en concert donc ce jeudi à Chalon-sur-Saône dans l'auditorium du conservatoire, c'était 18h, à la même heure le lendemain, cette fois vous serez à la Rosière de Montbéliard, samedi deux concerts, le premier en début d'après-midi au Capucin d'Ille-sur-Tille, c'est à 14h30, et puis 20h30, vous l'avez dit, alors là vraiment à la clôture, le moment de pleurer ou de rire, avec ce concert final donc à Besançon, au Théâtre Ledoux, c'est à 20h30.